Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est l'heure du journal de la culture, 10h22 en direct sur Europe 1. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Sans attendre, votre journal qui débute, Hélène, par l'annonce de la réouverture du Puy du Fou.
Elle a été annoncée hier, ça sera le 11 juin 2020. Le parc à thème vendéen devait normalement débuter sa saison le 4 avril, mais il a dû rester fermé. Alors, une réouverture dans les règles sanitaires, une circulation du public qui sera surveillée par 350 agents. Du gel hydroalcoolique sera disponible à 250 points différents. Un nombre de spectateurs réduit pour les animations. Une annonce de réouverture pas encore officielle, puisque le gouvernement communiquera véritablement le 25 mai concernant les parcs d'attractions. Mais pour chaque parc, les préfets devront valider le protocole sanitaire. Le Puy du Fou, lui, a pris un peu d'avance et a déjà présenté ses différentes mesures que le préfet de Vendée a donc validées. La Vendée fait partie de ces départements classés en vert. Philippe de Villiers, le fondateur du parc, s'était agacé de l'absence d'informations concernant la réouverture du Puy du Fou.
Port du masque obligatoire au Mont-Saint-Michel.
Une mesure sanitaire en vigueur jusqu'au 1er juin, au moins, décision du directeur de l'établissement public national, Thomas Welter. Alors le port du masque sera donc obligatoire pour les visiteurs, les week-ends et jours fériés, entre 10h et 18h. Des masques sont déjà vendus dans les commerces du Mont-Saint-Michel, d'autres le sont au niveau des navettes reliant le parking au rocher. Pas de verbalisation. Si vous n'en portez pas pour le moment, la police fera de la pédagogie. Le Mont-Saint-Michel attend la réouverture de son abbaye, fermée au public pour le moment.
On va passer au cinéma et je pensais en être débarrassé, mais pas du tout. On va parler de la Reine des Neiges.
Dans un autre monde.
Remerciez pas pour cette chanson que vous allez avoir dans la tête toute la journée. Voilà, c'est un petit cadeau en ce 22 mai.
Merci, je vous reconnais bien.
Avec plaisir. Alors, selon le site The Dis Insider, La Reine des Neiges 2 devrait être adaptée en film, vous savez, en prise de vue réelle. Pas de confirmation de la part de Disney, mais tout de même, les informations commencent à se préciser. Ça serait produit par les producteurs de Cruella.
Tu m'étonnes.
Le film s'intitulerait en anglais The Snow Queen, donc la Reine des Neiges,
ouais.
Et pas Frozen, comme les deux films d'animation. Sorti en novembre dernier, La Reine des Neiges 2 est devenu le plus grand succès de l'histoire de l'animation. En France, le film a rassemblé 7,6 millions de spectateurs, alors que le premier opus, sorti en 2013, en avait rassemblé 5,1 millions. Alors après Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, Aladdin, Disney prépare d'autres adaptations en prise de vue réelle, notamment celle de La Petite Sirène ou encore Pinocchio. La sortie de Mulan a été décalée en juillet.
Une bonne nouvelle, les tournages en Californie vont reprendre, sauf à Los Angeles.
Et oui, qui est encore beaucoup trop touché par le Covid-19. Donc Los Angeles va devoir attendre. En revanche, dès la semaine prochaine, 58 comtés de l'État de Californie vont pouvoir reprendre les tournages. Le gouverneur détaillera les mesures sanitaires lundi dans le plan qu'il va présenter. Les tournages étaient censés reprendre le plus tard possible. Mais cette décision intervient après l'appel de Donald Trump à la, je cite, « normalisation ».
Et on termine ce journal, Hélène, avec de la musique, Monsieur Jacques Brel.
Des moments rares de Jacques Brel rassemblés dans un coffret inédit et sorti hier donc par la Fondation Jacques Brel. Images et sons restaurés avec un moment très marquant. Jacques Brel sur scène au casino de Knokke en Belgique le 23 juillet 1963. Il interprète pour la première fois sa chanson Mathilde.
Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà.
Sublime chanson de Jacques Brel. Sa fille France raconte que c'est la chanson qui lui a pris le plus de temps. Il a répété pendant 2 ans avant de l'interpréter pour la première fois. Alors le deuxième élément de ce coffret, ce sont ses adieux à l'Olympia. Nous sommes en 1966. Il chante entre autres Amsterdam.
Yeah.
Naturel, dit donc adieu à la scène et à son public. À la fin de son concert, les 2000 spectateurs debout hurlent « Ne nous quitte pas ». Et puis une interview est également disponible, interview filmée par Marc Lobé en 1971. 32 minutes d'entretien que Jacques Brel a accordé à Henri Lemaire, où il défend ses convictions avec humour.
Merci beaucoup Hélène, bon week-end, on vous retrouve lundi.
Bon week-end.
Nous, dans un instant, on va recevoir Akhenaton. Arte diffuse ce soir le concert privé du groupe IAM. Ceci explique cela, on va rester.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Akhenaton.
Bonjour.
Plaisir d'entendre cette voix et ce petit accent. Vous êtes le leader et l'une des voix du groupe IAM, même si c'est un groupe qui n'a pas vraiment de leader. On est heureux de vous retrouver ce soir sur Arte. Ce sera à 0h50, 1h10, en concert privé, en public. Donc enregistré avant le confinement. L'émission s'appelle Dans le Club. C'était où ce club? C'était quand?
Ah, c'était, alors, c'est près de la porte d'Aubervilliers. Et c'est un endroit assez... assez hallucinant parce que ça fait un peu une sorte de yard avec des trailers dedans, et puis on est rentré dans un endroit qui était assez assez sombre. C'était vraiment une super soirée. On a des gens qui sont venus et qui avaient l'habitude de venir à des concerts d'IAM. Ils nous ont dit c'est vraiment différent et particulier, les gens étaient très proches, on en garde un très bon souvenir, vraiment.
Ouais, je confirme, pour vous avoir vu plusieurs fois, c'est vraiment très particulier, très 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 réussi et très bien filmé. Vous veniez présenter votre dernier album qui s'appelle Yasuke. C'était un concert particulier, rien à voir avec votre tournée, ou est-ce que c'était à peu près la même setlist? La setlist, c'est l'ordre des morceaux.
Alors, l'ordre des morceaux n'a rien à voir avec la tournée, parce que sur la tournée, on a vraiment même remanié certaines structures, introduit d'autres morceaux. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'on a fait... On a fait au milieu des classiques d'IAM une injection de morceaux de Yasuke. Pour nous, c'est très important. C'est quelque chose... on y tient énormément. Chaque fois qu'on fait une performance, d'essayer de mettre des nouveaux morceaux, parce ouais. que ça montre que le groupe est toujours en activité, écrit toujours et crée toujours des choses. Et on est particulièrement fiers de cet album Yasuke du dernier.
Et il y a toujours des références à l'actualité, par exemple avec la politique. C'est dans le morceau L'Empire du côté obscur. Ça sera ce soir sur Arte. Écoutez bien les paroles. Vaisselle en tant que sabre laser. Quoi? Ma conscience comme le seul médaille. Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers Jedi. La haine monte en toi, je le sépare. Maintenant je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. La nature que tu as, tu es le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars c'est l'Empire, je lance mes troupes à terre. Pour éradiquer ce mythe de Jean-Claude Godin Skywalker. Jean-Claude Godin Skywalker, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire que des fois dans la vie, ceux qui sont présentés comme étant les grands gentils de l'histoire sont pas forcément ceux qu'on croit être les gentils. La vie, elle est beaucoup plus nuancée et compliquée. C'est un morceau qui est... qui, déjà à l'époque, on avait un combat, mais c'est un combat qui peut encore plus se renforcer maintenant. C'est dire aux gens qui nous écoutent que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Ouais. Y a de la nuance absolument partout. Et l'absence de nuance, ça ouvre la porte vers des tas de faux combats et des tas d'oppositions qui sont vraiment pas du tout constructives ni pour le pays, ni pour les communautés.
Ouais, et j'imagine que vous avez vécu très intensément le drame de la rue d'Aubagne à Marseille et les atermoiements du maire Jean-Claude Godin et de la municipalité. J'en reviens au concert d'Arte ce soir. Il y a aussi le titre « Demain c'est loin » dans lequel vous balancez ceci.
Princesse d'Afrique, fille mère plastique, plein de colle, raclou à la masse lunatique, économie parallèle, les coupes dures comme Europe, petite donne qui contrôle grave leur spot. On pète le peuple pico, parqué comme à Mexico, horizon cimenté, big pocket, toxico, personnel, ignoré, super flic, zéro, politiciens, journalistes, en visite au zoo.
Ça sonne carrément, en régie, Louise et Jérémy dansent. Je vous cite, politiciens et journalistes en visite au zoo. Ça c'est pour nous. Vous avez toujours l'impression que quand ils viennent dans les cités, les politiciens et les journalistes sont là comme ils étaient au zoo?
Malheureusement, parce qu'ils s'y déplacent que lorsqu'il y a des choses pas terribles qui s'y passent. Ouais. Et notamment, encore plus de nos jours, avec l'émergence de l'actualité, les news en flot continu. c'est vraiment encore plus vrai. Malheureusement, on voit pas de gens venir se déplacer et faire des choses intéressantes quand des gens montent des initiatives, ou s'ils le font, c'est diffusé à 23h50 au fin fond d'une chaîne du câble ou du satellite.
Ouais.
C'est ça qui est très gênant. C'est que les modes journalistiques engendrent un mécanisme qui s'appelle la peur. Et la peur, et on le voit avec la crise du Covid, la peur affecte tout le monde, la société, de la base jusqu'à la présidence, jusqu'à nos dirigeants. Et je pense que dans tout ce chaos-là qu'on a connu, il y a une bonne part de peur et d'inconnu. Quand on ne sait pas, l'être humain refuse d'être raisonnable et ne réagit uniquement sous l'emprise de la peur.
Question très rapide, à la fin du concert, vous ne finissez pas par votre tube ultime « Je danse le Mia ». Pour quelle raison ? Vous l'avez fait mais vous ne l'avez pas mis au montage ou vous ne l'avez pas fait du tout ?
Je pense qu'on l'a pas fait dans cette liste. Des fois, il y a des moments où il faut savoir faire la pause avec ce titre.
Vous savez quoi ? Je vous interromps parce que nous, je le dis aux auditeurs auditrices, on fait pas la pause. Nous, on va le passer à la fin de l'interview. Juste un mot. Comment vous avez vécu le confinement ? Vous étiez en pleine tournée.
On était en tournée.
Ouais.
Eh ouais. Donc on est passé vraiment de la folie des concerts tous les soirs à être complètement renfermé à la maison, seul, isolé, et pas du tout avec le groupe, en famille. Donc les premiers jours c'était plutôt, on va dire, plutôt de l'incompréhension.
Ouais.
Puis après on a tous, chacun de nous, on a essayé d'être créatif, de faire des choses, et puis passer du temps avec nos familles. Moi j'ai 3 enfants qui sont adultes, ils sont pas souvent tous les 3 en même temps à la maison, donc sur ça il y a des aspects positifs. On peut se recentrer sur soi-même et réfléchir à des tas de choses. Bah, par contre de notre côté,
ouais.
Justement je parlais de la peur n'empêche pas de raisonner, et quand on raisonne, j'espère que les conséquences de décisions qui ont été prises ne seront pas 50 fois pires que la crise elle-même.
Alors je précise.
Et ça, honnêtement.
Je précise que la tournée est annulée, mais va être repoussée. Elle va reprendre le 16 septembre à Strasbourg. Il serait à l'Accor Arena à Paris le 20 novembre, au Dôme de Marseille le 28. Question de Lise Pressac, notre rédac chef, qui vous a vu. Vous êtes le groupe qu'elle a vu le plus souvent dans sa vie. Est-ce que les billets pour l'Olympia du 24 avril sont OK pour la tournée ? Où est-ce qu'elle peut s'asseoir dessus et dire au revoir ?
C'est une question à laquelle je ne peux répondre parce que c'est la salle la plus complexe à recaler vu son taux d'occupation et son taux de réservation.
Bon.
Mais je pense que les personnes qui s'occupent de notre tournée y travaillent.
Bon.
S'ils n'ont pas annoncé que c'était définitivement annulé, c'est qu'ils ont une solution pour l'instant. Et nous on y tient parce que c'est une sorte de tradition depuis début des années 90.
Ouais.
C'est une salle qu'on affectionne particulièrement.
Akhenaton, juste un mot, je vous interromps parce qu'on doit rendre l'antenne, mais on a tellement envie de vous réentendre. On n'a pas eu le temps de parler de votre album dont un titre vient de sortir aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de parler de l'album que vous allez faire chez Stock, le livre qui va sortir à la rentrée. On n'a même pas eu le temps de parler du foot. On n'a même pas eu le temps de parler de la lettre ouverte que vous avez envoyé au président de la République et vous avez entendu pour prolonger les droits des intermittents du spectacle d'une année. Je vous dis un grand merci d'avoir été avec nous. IAM en concert privé
merci.
Ce soir sur Arte à 12h50 et c'est aussi jusqu'au 17 novembre sur le site d'Arte Concert. Culture Média
merci.
Qui continue. Je vous l'avais dit dans un instant, notre premier indispensable du jour, un récit bouleversant qui a reçu le prix du premier roman étranger en 2019. C'est Bernard Porrette qui raconte.
Mais d'ailleurs, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Premier indispensable du jour, on va parler littérature avec Bernard Poirette. Bonjour Bernard.
Bonjour Monsieur Vandel.
Et je l'ai dit, vous nous annoncez un chef-d'œuvre, le titre Les Patriotes de Sarah Krasikov, c'est chez Albin Michel.
Voilà, je le montre à la caméra, si vous me suivez aussi en image. Sana Krasikov, elle est toute jeune, elle a 40 ans, c'est une très jolie fille. Là, je vous montre aussi la photo de Sana Krasikov. Elle est née en Géorgie, et puis elle a émigré très tôt aux États-Unis avec ses parents. C'est son premier roman à 40 ans, certes, et c'est une merveille. Qu'est-ce que ça raconte, Les Patriotes ? Eh bien, ça raconte le destin de ces Américains qui, par conviction politique, ou en l'occurrence dans le cas présent pas du tout, puisque l'héroïne principale qui s'appelle Florence Fain, elle est juive, elle a 24 ans dans les années 30 aux États-Unis, elle vit sur la côte est américaine, et dans le cadre de son travail, puisqu'elle parle russe en l'occurrence, elle fait la traduction pour des voyageurs qui viennent du RSS et qui sont des ingénieurs soviétiques. Parce que à l'époque, en 1934, le pays n'était pas encore fermé à triple tour par Staline, comme il va le devenir quelques années après. Et donc, le pouvoir soviétique envoyait à l'étranger, notamment en Amérique, des ingénieurs pour qu'ils apprennent des Américains comment ils faisaient des usines, comment ils fabriquaient des tracteurs, etc. etc. Et il y avait des contrats commerciaux à la clé. Donc, elle fait la traduction, elle tombe amoureuse d'un de ces ingénieurs, un type merveilleux, formidable, ils boivent beaucoup ensemble, ils font la fête. Et puis lui, il rentre chez lui. Et par amour, elle décide d'émigrer en URSS. En 1934, vous imaginez un peu le délire. Elle se retrouve au fin fond de la Sibérie, à Magnitogorsk, qui est une des villes nouvelles voulues par Staline, qui est l'un des piliers du plan quinquennal pour produire de l'acier, etc. Elle cherche son ingénieur, elle le trouve, et finalement il ne veut plus d'elle parce que bon, les temps sont passés. Et elle reste en URSS. Elle reste en URSS alors que sa famille la supplie de revenir à New York comme elle devrait le faire. Elle reste là-bas et là, elle y reste par conviction aussi parce qu'elle voit se créer un monde devant ses yeux et elle se dit « mais l'avenir est là, l'avenir du développement humain, il est là, il est dans ce modèle-là » et c'est son erreur fatale. Parce que les Soviétiques et Staline referment la grille, lui pique son passeport, tout simplement, puisqu'elle vit à Moscou, mais elle doit tous les trois mois aller pointer dans un certain bureau pour obtenir une autorisation. Et là, on lui prend son passeport en lui disant « on va vous le rendre », on lui rend jamais, et elle disparaît, tout simplement. Elle ne peut plus avoir accès à l'ambassade américaine, qui est verrouillée par le NKVD, elle ne peut même pas avoir accès. On lui dit « mais vous êtes américaine ?»« Oui, je suis américaine, prouvez-le !» Mais je n'ai plus de passeport, ils me l'ont pris. Ah bah alors vous ne pouvez pas rentrer, bien évidemment. Donc elle ne peut plus s'échapper du RSS. Elle est emprisonnée là-bas. Bien sûr, elle trouve un nouvel homme, Léon, qui est juif, américain, comme elle. Il y en avait des milliers hein, comme ça hein, qui ont émigré. Ce que je ne savais pas, mais c'est vrai, tout ça c'est vrai. Ça sert un roman, mais extraordinaire. Et donc elle est enfermée dans l'URSS de Staline, qui commence les grandes purges de 1937-1938. C'est une épouvante absolue. Et tous ces gens-là vont partir dans le siphon de la terreur communiste de Staline. Son mari va être exécuté comme étant un espion à la solde des trotskistes. Ils inventaient n'importe quoi, enfin il n'y avait aucun problème. Elle finira au goulag, bien évidemment, elle est condamnée à 7 ans de camp dur en 1950, donc Florence, elle a eu un enfant pendant ce temps-là qui va dans un orphelinat soviétique, et puis Staline meurt en 1953, elle est libérée 4 ans après, à l'époque de Khrouchtchev, et elle reste en URSS. Et pourquoi elle reste en URSS ? Parce qu'elle se dit « je ne peux pas reconnaître pour moi-même que j'ai fait une erreur. » C'est-à-dire que si je me dis « tout ça n'a servi à rien », ma vie est inutile, ma vie n'a servi à rien. Donc elle se raccroche au peu de bien qu'elle a vécu. Parce que même vivre dans un appartement communautaire où il y a une famille par pièce, ils sont neuf à se laver au même endroit, à aller aux toilettes, pareil, à avoir des verrous sur les frigos pour qu'ils ne se piquent pas les... Enfin, c'était une vie abjecte, abjecte de misère et de terreur absolue. Eh bien, néanmoins, elle se dit « cette vie-là, il faut que je l'ai vécue pleinement. » Et elle finira ses jours très tardivement aux États-Unis à la demande de sa famille qui n'en peut plus de ne pas la voir. Voilà, c'est un livre extraordinaire, admirable. Ça s'appelle Les Patriotes de Sana Krasikov et je vous jure que c'est vraiment pour tout public. C'est sorti chez Albin Michel. Ne le ratez pas.
Merci beaucoup, Bernard Porret. Vous serez demain à l'antenne du 6-9.
Oui.
Ne le ratez pas non plus. Dans un instant, notre deuxième indispensable du jour, Laurent Mariotte, un menu de printemps pour des retrouvailles juste après ça.
Culture Média, Philippe Vandel.
Second indispensable du jour, il n'est plus dans sa cuisine, il est déconfiné. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous pouvez le voir, Laurent Mariotte, rayonnant de sa chemise blanche sur Europe1.fr. Vous nous proposez un menu printanier de retrouvailles, Laurent.
Exactement, les restaurants sont toujours fermés, hélas, hein, voilà. Mais en tout cas, on peut recevoir à la maison moins de 10 personnes en respectant les gestes barrières. Donc un menu printanier, on a un joli printemps avec des asperges, des radis, des fraises, des cerises qui arrivent. On en a parlé ici plein de fois. Donc on va se faire faire plaisir. Entrée, je vous propose une asperge mimosa, en plein poulet au vinaigre, et en dessert, un clafoutis.
Asperge mimosa, c'est avec des œufs, c'est ça? La sauce mimosa, c'est avec l'œuf dur.
Bien, absolument.
Ouais.
Ouais, ouais.
Bah, allez-y, continue, non, parce que j'en sais pas plus.
Ah voilà, c'est ça. Non, je vous laisse.
Je m'arrête là, non. Ma compétence.
Qui sont les asperges blanches? Alors, de belles asperges blanches, il y en a dans les Landes, il y en a dans le Val-de-Loire, en Sologne, on prend l'asperge, on l'épluche de la pointe jusqu'à la base, et on va les faire cuire, nos asperges, allez, 20 minutes, en les liant en botte dans de l'eau bouillante salée, ou alors à la vapeur. C'est vrai que c'est pas mal, la vapeur, elles sont un petit peu moins flotteuses, comme on dit. Ensuite, on les recouvre d'une jolie vinaigrette et l'œuf dur, 9 minutes de cuisson, l'œuf dur, qu'on va râper simplement par-dessus. Vous pouvez servir ça pour moins de 10 personnes, comme ça, à la maison, façon buffet, chacun se sert. En plus, c'est très pratique, vous pouvez le faire à l'avance.
C'est cher, les asperges. Poulet au vinaigre, c'est moins cher, c'est plus économique.
Oui, un bon poulet fermier, attention.
Hein. Oui, bien sûr.
Les asperges, elles sont accessibles en ce moment.
Hein. Wow. Ah
ouais. Non, mais à Paris, tout est hors de prix.
C'est vrai, vous avez raison.
À Paris, tout est multiplié par 3. Mais en province, là où on récolte les asperges, elles sont accessibles. Un bon poulet fermier, ça c'est facile. Un bon poulet fermier au vinaigre. Je ne sais pas si vous avez envie de ça, vous, au printemps, mais on mange acidulé au printemps. Ça se réveille, la nature s'éveille et les papilles se réveillent.
Je vais vous dire, je ne sais même pas le goût que ça a. Poulet au vinaigre, pour moi, c'est juste un bon film de Chabrol. Je crois que j'en ai jamais mangé. Quel goût ça? Ça se fait comment?
C'est très bon, c'est acidulé. Un bon poulet fermier coupé en morceaux, vous le faites revenir dans un mélange d'huile et de tournesol, comme ça, vous ajoutez un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, d'échalote, et aussitôt, vous allez verser du vinaigre par-dessus. Vinaigre de vin blanc ou vinaigre de cidre, comme vous voulez, et vous couvrez immédiatement pour que le vinaigre, il infuse bien les chairs du poulet. On va avoir quelque chose de très acidulé. Vous pouvez mettre à la fin, allez, des carottes, des petits navets nouveaux si vous voulez. C'est 30 minutes de cuisson en cocotte au four. Comme ça, on aura une belle cuisson à l'étouffer, et notre vinaigre va vraiment bien parfumer le poulet. Vous servez ça, par exemple, Philippe, avec un riz de Camargue. Il y a de jolis riz en Camargue, un riz complet blanc ou un riz rouge de Camargue, c'est super.
Le dessert, clafoutis.
Ah, clafoutis.
Alors
là, je vous félicite, Philippe Vandel. Vous n'avez pas dit clafoutis de cerise. Non. Parce qu'un clafoutis, c'est obligatoirement avec des cerises.
Ah oui?
Oui, exactement. Il y a plein de gens qui disent clafoutis d'abricot, clafoutis de pommes. Paul Bocuse, ça le rendait dingue. Ça. Le clafoutis, c'est avec des cerises. Donc ça, c'est très important, de belles cerises. Là, elles sont accessibles. Hein. Il y a même des pubs là, qui passent en ce moment. Il y a des à 4 euros le kilo, franchement.
Là, c'est bon.
On peut y aller. Il n'en faut pas une tonne. Hein. Il en faut 500 grammes. Mmh. Le clafoutis, c'est quoi? C'est hyper simple. C'est une pâte à crêpes, en fait, on va dire, un peu plus dense. Vos cerises, il y a le grand débat.
Ouais, noyau, pas noyau.
Vous préférez le noyau ou pas le noyau?
Je préfère, j'aime pas l'enlever. Alors, on décide soit de pas l'enlever avant de cuisiner, soit de l'enlever quand on y est. Vous-même.
On dit que le noyau renforce le goût de la cerise, effectivement. Pour les puristes, je trouve que c'est sympa de garder le noyau. Voilà, on les mettra sur le bord. Mais moi, j'aime bien aussi qu'il n'y ait pas de noyau.
Donc là, moi, tous les gens que je connais qui défendent la cerise avec le noyau sont dentistes.
Ben oui, évidemment, forcément. Oui, il y a du boulot comme ça. Non, mais c'est simple. Les cerises, ce que vous pouvez faire quand vous gardez le noyau, c'est que vous donnez un petit coup de couteau dans chaque cerise. C'est Jean-Luc Petit-Renaud qui m'a donné ce truc-là. Ça va parfumer votre appareil à clafoutis. Donc vous aurez une sorte de beau flan comme ça, pâte à crêpes qui aura durci, avec le jus rouge de la cerise qui va se répandre à l'intérieur. Et c'est 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Le clafoutis, c'est hyper simple.
Dis donc, je pense à quelque chose. Un poulet pour 10, c'est pas très large chez les Mariottes.
Ben vous en prenez deux.
J'y ai pas pensé.
Il y aura du rab. Un gros poulet fermier, on mange à plusieurs dessus. Hein.
Ah bah oui,
pas une poularde, mais un gros poulet fermier, on peut y aller. Hein.
Merci beaucoup Laurent Mariotte. Toutes ces recettes sont disponibles sur votre site. Je vous laisse le dire, votre site.
Oui. LaurentMariotte.com, mais on en parlera surtout demain à la table des bons vivants où on fera un menu spécial, effectivement, moins de 10 personnes à la maison.
D'accord, merci beaucoup Laurent. Culture Média, c'est terminé pour aujourd'hui malheureusement. Nous, on se retrouve lundi, on va se retrouver avec notre horaire habituel, si j'ose dire, déconfiné. Ça sera dès 9h, de 9h jusqu'à 11h. Nous serons avec le dessinateur Riyad Satouf, dont la série Les Cahiers d'Esther devient un programme d'animation sur Canal+. Et maintenant, vous allez...